Bon, nous continuons notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste. On est à Ecclésiaste chapitre 7, verset 13. Alors, on va relire le passage et ensuite on va continuer l'exposition de ce passage-là qu'on avait commencé la semaine dernière. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, verset 13. On va lire le verset 14 en même temps. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. On rappelle qu'on est déjà rendu au 20e sermon dans notre série sur l'Ecclésiaste, que moi qui me bénis personnellement et qui j'ose espérer bénisse aussi ceux qui entendent la parole par la providence de Dieu qui permet que ces choses arrivent dans nos vies. Alors, on rappelle le thème d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 13. On avait donné comme titre « La souveraineté et la sagesse de Dieu déployées dans les afflictions des hommes ». La semaine dernière, nous avions vu la partie 1. Cette semaine, nous continuons avec le même thème, avec la partie 2. On avait vu que, dans le fond, on pourrait diviser le verset 13 du chapitre 7 d'Ecclésiaste de la façon suivante. Trois idées principales. La première, c'est que les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu. La deuxième, c'est que les afflictions ne peuvent pas être évitées ou éliminées par l'homme. Et la troisième, c'est que les afflictions, on se doit d'y voir la main de Dieu en celle-ci pour bien les vivre. Alors, on fait un bref rappel. On avait mentionné dans notre précédent sermon sur Ecclésiaste chapitre 7, verset 13, qu'il était d'une grande richesse. Nous avions aussi mentionné que nous allons nous attacher à ce verset pendant quelques semaines. La présente étude est basée sur un écrit du puritain Thomas Boston qui est intitulé « The Crook in the Lot or the Sovereignty and Wisdom of God in the Afflictions of Man Displayed ». Alors, Thomas Boston était un puritain qui a vécu de 1676 à 1732. Et c'est un de ses écrits et la plupart des sermons que je vais faire sur cette verset-là, verset 13 et 14, sont basés fortement sur ses écrits, son écrit. C'est un document qu'on peut télécharger, qui est gratuit, qui est en ligne, ce document-là explique en détail la compréhension de ce grand théologien sur le sujet de la souveraineté et de la sagesse de Dieu, qui sont déployés dans les afflictions des hommes. En fait, elles sont décrétées de Dieu et elles font partie de son plan pour nos vies. Alors, si vous avez téléchargé mes notes au sujet du sermon de la semaine dernière, il serait, je crois, profitable de les relire pour garder le fil conducteur du raisonnement de Thomas Boston. Juste pour faire un bref résumé, dans le sermon précédent, dans le sermon 19, nous avions développé le premier point, c'est-à-dire que les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu. Et nous avions exploré plusieurs idées qui sont reliées. Alors, on avait d'abord vu des observations générales, le fait que chaque homme reçoit sa part d'affliction, le fait que chaque homme les vivra indépendamment de sa richesse, de son statut social ou de sa renommée. Le fait aussi que les afflictions sont entrés dans le monde à cause du péché. Nous avions aussi brièvement regardé les diverses formes des afflictions, celle de l'adversité et celle de la continuité des afflictions. Nous avons poursuivi avec des remarques sur les particularités des afflictions, qu'elles sont désagréables, d'apparence triste, qu'elles rendent parfois la marche chrétienne difficile, qu'elles contiennent aussi des leçons de pédagogie divine qui forcent la réflexion. Nous avons aussi regardé dans quelle sphère de la vie humaine les afflictions s'exercent. La sphère corporelle, la sphère de la réputation, la sphère professionnelle et la sphère relationnelle. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous continuons de développer le premier point, soit les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu. Alors, les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu, c'est la suite de ce qu'on avait fait la semaine dernière. On va relire les versets 13 et 14 du chapitre 7 de l'Ecclésiaste. « Regarde l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il aura courbé? Au jour de la prospérité, sois joyeux. Et au jour de l'adversité, prends-y garde. Aussi Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. » Alors nous examinerons aujourd'hui trois idées. Qui a décrété les afflictions des hommes, suivi du comment de l'arrivée de ces afflictions et du pourquoi elles font partie du plan providentiel de Dieu. Alors on va regarder le premier point. Qui a décrété les afflictions des hommes? On peut aller voir quelques versets qui nous renouvelle la mémoire concernant ces choses. Alors, on va regarder, par exemple, Amos, chapitre 3, verset 6. « Si la trompette sonne dans une ville, le peuple ne sera-t-il pas alarmé? Et s'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui l'a fait? » Alors, Lamentations, chapitre 3, les versets 32 et les versets 37 à 40. On les relit parce qu'elles sont remplies de sens pour nous faire comprendre ce qu'on est en train d'étudier. Mais s'il afflige, il a aussi compassion, selon la grandeur de sa miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Alors ici, il y a une idée très importante, c'est que le Seigneur ne fait pas ça par plaisir, mais il fait ça par nécessité. Et les versets 37 à 40. Qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait commandée? Les maux et les biens ne procèdent-ils pas de la volonté du Très-Haut? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses péchés? Recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Alors l'expression, ce qui est courbé dans le verset 13, on avait identifié la semaine dernière que c'était les afflictions des hommes, que Dieu lui-même vienne de la main souveraine et sage du Seigneur. Il est évident, d'après la doctrine biblique de la Providence, que Dieu détermine le sort de chacun dans toutes les parties de celui-ci. Il est à la tête des affaires humaines et les fait tourner comme il veut. Regardons par exemple le verset 135, le psaume 135, le verset 6. « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Verset d'une grande profondeur. La même providence qui nous a fait sortir de l'utérus nous met au monde dans la condition et la place qui nous sont attribuées. Voyons le verset Actes, chapitre 17, le verset 26. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Même les choses les plus petites et les plus banales sont sous son parfait contrôle. Rappelons-nous quelques versets du Nouveau Testament. Un verset on a regardé un du Nouveau et un de l'Ancien. Matthieu, chapitre 10, verset 30. « Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. » Quelque chose. Alors, Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui, et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. » Dieu a, par un décret éternel et immuable, comme les montagnes d'airain, a décidé de la totalité du lot de chacun, tant dans la partie tordue de celui-ci, qui sont les afflictions, que dans la partie droite, qui sont les circonstances joyeuses et agréables de nos vies. Le chapitre 1 d'Éphésiens, au verset 11, nous rappelle cette grande vérité. C'est en lui que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Alors, on a vu le point qui a décrété les afflictions des hommes. Maintenant, on va regarder comment les afflictions des hommes arrivent-elles. Le Seigneur veut que nous sachions distinguer les afflictions qui sont le produit et les conséquences de nos propres péchés et de celles qu'il nous envoie et qui sont hors de notre contrôle, comme par exemple la pauvreté de Lazare, les yeux délicats de Léa, la stérilité de Rachel, ou le fait d'être aveugle, l'aveugle-né, par exemple, dans le Nouveau Testament. Alors, il y a celles qui ne sont pas de notre contrôle. Dans 1 Samuel, chapitre 2, les versets 7 et 8, le Seigneur nous rappelle cette vérité-là. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Il relève le pauvre de la poussière. Il tire l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les princes, et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les colonnes de la terre sont à l'Éternel, et il a posé le monde sur elles. On peut aller voir un autre verset dans Exode, chapitre 4, verset 11. Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet ou sourd ou voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Grande vérité à méditer. Proverbe, chapitre 17, verset 5. « Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. » Alors, quand on a quelqu'un qui se moque du pauvre, c'est comme s'il est en train de remettre en question le décret que Dieu a eu sur la vie de cet homme-là. Alors, il faut faire très attention à nos paroles. Alors, il y a celles qui sont hors de notre contrôle, mais il y a aussi celles qui sont les conséquences du péché des hommes, le nôtre et celui des autres. David et sa famille ont subi les conséquences du péché, de son péché, et de ceux de ses fils. Il y a eu, par exemple, dans sa vie, le meurtre d'Amnon. Il y a eu la rébellion d'Absalom. Et il y a eu le viol de Tamar. Alors, tous ces péchés-là, en fin de compte, sont reliés par le fait qu'un péché mène à l'autre et qu'il y a des conséquences à tout cela et que toute la famille va en subir les conséquences. Alors, de même genre étaient les péchés des Sabéens et des Chaldéens qui ont privé Job de ses biens et ont tué ses serviteurs. Job a souffert à cause du péché des hommes. Alors ici, on sait David, c'est lui qui avait péché, et à cause de ça, Dieu le dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta vie. Et dans le fond, pour Job, c'était pas son péché, le péché des Sabéens et des Chaldéens qui l'ont privé de ses biens et ont tué ses serviteurs. On sait cependant, d'une façon claire, que Dieu n'est pas l'auteur du mal et qu'il ne tente pas les hommes. Regardons par exemple le verset 13 du chapitre 1 de l'épître de Jacques. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Un autre exemple des Écritures, c'est celle de l'histoire de Joseph, qui nous montre bien que le Seigneur permet le mal, mais son but est toujours d'en faire ressortir du bien. Nous lisons dans Genèse 50, au verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, on a vu qui, on a vu comment. Maintenant, on va regarder pourquoi les afflictions font partie du plan providentiel de Dieu. Alors, Thomas Boston en avait identifié sept raisons ou sept les desseins de Dieu dans l'envoi des afflictions aux hommes. Donc, on va les regarder toutes les sept, une à une. C'est intéressant de se rappeler ces choses-là parce qu'on peut vraiment appliquer ces choses-là dans notre propre vie. Alors, le premier, pourquoi? C'est la nécessité d'éprouver l'homme s'il a reçu la grâce de Dieu à salut. Le chrétien est-il un hypocrite ou un véritable croyant? Le Seigneur a éprouvé solidement son serviteur Job. La question était de savoir si Job était un serviteur de Dieu droit et sincère, comme Dieu lui-même en avait témoigné de lui. Ou était-il un hypocrite comme Satan l'avait allégué contre lui? L'épreuve était la partie courbée de sa destinée terrestre. Tous ses amis, sauf Élihu, le dernier orateur, visaient dans leur raisonnement avec lui, était de prouver qu'il était un hypocrite. Satan se servant de ses bons hommes pour gagner son point. Autre endroit dans les Écritures, c'est le Seigneur qui a éprouvé Israël dans le désert. On sait que seulement Josué et Caleb furent jugés dignes d'entrer dans la terre promise. Les autres furent condamnés à mourir dans le désert. On a un autre exemple dans le Nouveau Testament qui nous est donné par le Seigneur Jésus lui-même, qui a éprouvé la sincérité du jeune homme riche. On va relire le passage parce qu'il est très riche d'enseignements. Alors Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 24. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » On se souvient que le Seigneur Jésus n'a jamais caché ses exigences pour devenir son disciple, et elles sont grandes. Rappelons-nous ces choses en relisant le chapitre 14 de Luc, les versets 26 à 33, qui sont d'une grande profondeur, qu'on aurait intérêt à relire et à relire et à méditer jour et nuit, comme on pourrait dire. Le Seigneur lui-même dit, « Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Alors, si jamais on a le désir de vraiment saisir ce que le Seigneur est en train de dire, on peut lire ça d'une façon superficielle et pas vraiment saisir la profondeur de ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, sa vie, son père, sa mère, ses enfants, ses frères, et aussi, c'est vraiment un passage, je pense, à réexaminer, relire, méditer, et vraiment demander l'aide du Saint-Esprit pour en comprendre toute la profondeur et toute la richesse. Parce que le Seigneur, il nous dit que pour devenir son disciple, il faut qu'on réalise ces choses-là. Alors, quelque part, il y a quelque chose de très intéressant ici. Donc, le premier point, c'était pourquoi des afflictions font partie du plan providentiel de Dieu. On a vu que la nécessité d'éprouver l'homme s'il a reçu la grâce de Dieu à salut. La deuxième, c'est une excitation au devoir chrétien. Nous devons être sevrés des plaisirs du monde et tourner nos désirs et notre recherche vers le bonheur céleste. Et on sait que pour arriver à cela, la mortification du péché est essentielle. Relisons par exemple dans le chapitre 8 du livre de Romains, les versets 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je me souviens d'avoir déjà fait une série de sermons juste sur ce passage-là, Romains, chapitre 8, verset 13, si vous vivez, sachant que vous mourrez. C'est, parfois, c'est des passages qu'on a lus, qu'on a relus, et qu'on ne comprend pas nécessairement toute la richesse et toute la profondeur. On a intérêt parfois à méditer la parole et à aller voir ce que des personnes plus expérimentées et plus savantes que nous, dans le passé, ont écrit, ou ont dit, ou ont prêché sur le même passage. Alors, on a aussi Hébreux, chapitre 12, verset 14, qui nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Je pense que si j'ai eu une erreur, je pense que j'ai simplement répété la copie du verset précédent de Romains, mais je vais le corriger pour ceux qui vont télécharger. Alors, Hébreux 12, 14, en tout cas, de toute façon, on va regarder ça, je corrigerai ça en temps et lieu. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. » Alors, tout simplement, on va reprendre tout à l'heure ce que j'ai dit dans Romain. C'était pas dans Romain, là, j'ai cité Hébreux 12, 14, mais je n'avais pas copié de bon verset. Hébreux 12, 14, ça dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais je vais le corriger aussi dans les notes. Alors, on a vu que la première raison, la nécessité d'éprouver si l'homme a reçu la grâce de Dieu à salut. La deuxième, on avait vu que c'était pour une excitation au devoir chrétien, excusez-moi. Et la troisième, c'est celui pour convaincre de péché. Dieu permet les afflictions et les épreuves dans la vie du chrétien pour lui indiquer qu'il a choisi le mauvais chemin ou qu'il a pris la mauvaise décision. Le Seigneur veut aussi lui montrer de ne pas prendre ses péchés à la légère. On lit par exemple dans Jérémie chapitre 2, verset 26, la première partie du verset 26, « Comment un voleur est confus lorsqu'il est surpris. » Alors, convaincre de péché, c'est que le Seigneur nous permet que des fois on voit notre propre péché. Alors, les frères de Joseph finirent par comprendre que leur péché les atteignait et qu'ils en subissaient les conséquences fâcheuses. Dans Genèse, chapitre 44, versets 15 et 16, nous lisons « Et Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi sait deviner? » Et Judas répondit, « Que dirons-nous donc à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Et comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » Lorsque Jacob fut trompé par Laban concernant Léa, cela ne ramenait-il pas à sa mémoire le fait qu'il avait trompé son père Isaac pour voler la bénédiction d'Ésaü? Alors le trompeur devient le trompé. Il apprend par son propre péché. Le Seigneur a montré aussi au roi Adoni-Bézek ses graves fautes en permettant qu'on lui fasse ce qu'il avait fait à d'autres rois. On lit par exemple dans Juges chapitre 1, du verset 5 à 7. Et ayant trouvé Adoni-Bézek à Bézek, ils l'attaquèrent et bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. Cependant, Adonis Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Alors, Adonis Bézek dit, « 70 rois, dont les pouces des mains et des pieds avaient été coupés, recueillaient sous ma table ce qui en tombait. Ce que j'ai fait aux autres, Dieu me l'a rendu. » Et, ayant été amené à Jérusalem, il y mourut. Mm. Intéressant de lire ça, hein, sa façon d'être, ce roi-là, lorsqu'il avait la victoire sur d'autres rois, il leur coupait les pouces des mains et des pieds. Et on sait que ça a des graves conséquences, parce que privé des pouces, ta préhension des mains est très diminuée. Et quand tu n'as plus de gros orteils, ton équilibre est vraiment diminué. Et il faisait cela, il disait qu'il ramassait des miettes sur sa table. Et à quelque part, Dieu s'est servi du même moyen. Lorsqu'il a été lui-même attrapé, on lui a coupé les doigts, le pouce et les gros orteils du pied. Un monde. La quatrième raison pourquoi Dieu envoie les afflictions, c'est pour aussi punir le péché et ou le corriger. Par exemple, dans Jérémie, au chapitre 2, verset 19, alors ici, c'est Dieu qui parle à son peuple Israël. Nous lisons le verset 19. « Ta malice te châtiera, et tes infidélités te reprendront, et tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère que tu aies abandonné l'Éternel ton Dieu, et que ma crainte ne soit pas en toi, dit le Seigneur. » L'Éternel des armées. Donc, punir ou corriger. Le péché de David. Il avait fait tuer Uri, le mari de Bathsheba, et ça lui a coûté très cher. Nous lisons, par exemple, dans 2 Samuel, au chapitre 12 et versets 9 à 12, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des enfants d'Ammon. Et maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as enlevé la femme d'Uri le Hittien afin qu'elle fût ta femme. Ainsi dit l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un de tes proches et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil, car tu l'as fait en secret, mais moi, je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. » On a aussi un autre exemple, dans le fond, que Dieu utilise pour corriger ou punir le péché. L'exemple de Géasi, qui était puni pour son péché de convoitise. Nous lisons dans le livre des Rois, au chapitre 5, les versets 25 à 27. « Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi? » Et il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alors, des fois, le Seigneur se sert des afflictions pour punir le péché ou corriger le péché. Cinquième, c'est pour prévenir le péché. On lit, par exemple, dans Osée, chapitre 2, versets 5 et 6, « Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues, s'est déshonorée, car elle a dit, « J'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'il ne trouve plus ses sentiers. Dans le psaume 119, au verset 67, nous lisons « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Alors, parfois, les afflictions que Dieu envoie dans nos vies ont un effet de prévenir le péché. Alors, le puritain Thomas Boston savait de quoi il parlait. Il a perdu 6 de ses 10 enfants en bas âge. Il n'est pas facile de comprendre et surtout d'accepter les circonstances que Dieu nous envoie. Seule la grâce de Dieu peut nous maintenir sur la route du ciel malgré les très graves et très grandes difficultés. Les difficultés que le Seigneur utilise sont nombreuses et variées. Par exemple, des décès, des trahisons, des maladies, des persécutions, des rejets par la famille ou par des proches, des problèmes financiers, des retards dans nos espoirs et dans nos attentes. Toutes ces épreuves et bien d'autres sont le lot de la plupart des chrétiens à un moment ou à un autre de leur vie. Qu'il s'agisse de la perte d'un membre proche de la famille ou de la rébellion d'un enfant, de la diffusion de calomnies vicieuses ou de l'espoir d'une victoire anéantie dans un projet ou dans un rêve, tous les chrétiens sont confrontés à des difficultés dans leur marche. La question est, comment ceux qui placent leur confiance en Christ devraient-ils voir la souffrance et réagir pendant de telles périodes d'épreuves? Quelle est la posture appropriée à adopter envers son Créateur lorsque l'affliction survient? Alors, une autre raison, cinquième, c'est pour découvrir des corruptions latentes dans nos âmes. Les âmes de tous les hommes ont déjà senti leur corruption intérieure. Cependant, seul le Seigneur peut nous montrer la profondeur de nos corruptions et de notre dépravation. De la même manière que la grande chaleur fait remonter les scories de l'or à la surface, les afflictions font apparaître les corruptions du cœur à la vue et à la surface. On peut lire un passage qui nous éclaire sur ce fait-là dans Ézéchiel chapitre 22, les versets 17 à 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Très important d'être intéressé à cette image-là, de quand tu prends de l'or, il y a des scories dedans, ou quelque autre métal chauffé, car s'il est chauffé à haute température, ce qu'il y a de mauvais dans le métal lui-même remonte à la surface, ce qui permet de l'enlever pour rendre le métal plus pur. Alors vraiment l'idée, Dieu, en nous envoyant des afflictions, c'est comme s'il nous chauffait à blanc pour faire remonter de nos êtres tout ce qu'il y a de mauvais pour que ça puisse être enlevé. Par exemple, on peut prendre un autre exemple du livre de l'Ancien Testament, Moïse, qui a vu sa faiblesse lorsqu'il a frappé le rocher deux fois, alors que l'Éternel lui avait commandé de le faire une seule fois. On relit le passage, Nombre 20, versets 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Un petit peu plus loin, dans le livre de Deutéronome, on apprend aussi que l'entrée dans la terre promise a été refusée à Moïse à cause de ce péché-là. Ça dit, en ce temps-là, Deutéronome chapitre 3, versets 23-27, « En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays et l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. » Alors, nous faire découvrir les corruptions de nos âmes, ça peut être un des rôles, une des raisons pour lesquelles le Seigneur envoie des afflictions dans nos vies. Et la dernière, c'est pour exercer sa grâce dans les enfants de Dieu. On lit par exemple dans 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 5 à 12. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous avez, qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, pour exercer la grâce de Dieu, voir la grâce de Dieu dans les enfants de Dieu, par tous les moyens que le Seigneur utilise. Et on termine par un dernier passage dans le psaume 147, versets 10 et 11. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Pour mettre cela en pratique dans nos vies, les applications, rappelons-nous toujours, premièrement, que le Seigneur est le maître de nos circonstances et de nos afflictions. Il est le qui de nos afflictions. Deuxièmement, sachons que l'Éternel est infiniment sage. Certaines de nos circonstances sont souillées par les péchés des hommes, tandis que d'autres sont choisies par lui pour notre avancement, pour nous corriger et pour nous faire progresser. Il contrôle le comment arriveront nos afflictions. Nous devons distinguer les afflictions qui sont les conséquences du péché, soit la nôtre ou celui des autres, et celles qui sont commandées par le Seigneur pour notre plus grand bien. Troisièmement, méditons sur le pourquoi de nos afflictions. Prions pour de la sagesse et du discernement pour comprendre les sept raisons de l'envoi des afflictions dans nos vies. Émerveillons-nous de la sagesse infiniment variée du Seigneur. Que l'Éternel soit béni, loué et exalté à cause de l'œuvre glorieuse accomplie en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.